nos bem é difícil de satisfazer. Et remarquez, selon le calendrier liturgique, on appelle ce dimanche, dimanche de Saint Grégoire à la Masse. Et pourtant, la fête de Saint Grégoire est le 14 novembre, ça n'a pas de rapport direct. Et l'évangile du jour n'a de rapport ni avec le carême et Pâques, ni avec Saint Grégoire à la Masse. Alors ça demande un petit mot d'explication. C'est vrai que parfois le dictionnaire oriental est un peu mystérieux, c'est pas toujours évident. Alors pourquoi Saint Grégoire à la Masse? En fait, c'est un peu un abus de langage. C'est le dimanche du don de la lumière incréée. C'est pas pareil. Et qui est défendu par Saint Grégoire à la Masse. C'est pour ça qu'on dit Saint Grégoire à la Masse. Alors de quoi s'agit-il? Il y a eu une controverse très importante au XIVe siècle entre un moine occidental, qui était un moine de Cala en Italie du Sud, mais de culture grecque. L'Italie du Sud est restée de culture grecque jusqu'au XVIIIe siècle. Et cet homme professait des idées curieuses, notamment, il était très influencé par la scolastique au XIVe siècle. Hein. La scolastique, c'est, la somatologie, c'est le XIIIe siècle. Donc très influencé par l'aspect rationaliste de la nouvelle théologie occidentale, la New Theology, comme je l'appelle dans mes articles. Et il disait, mais la lumière du mont Tabor, c'est une lumière créée, parce que sinon les apôtres ne pouvaient pas la voir. Et il y a eu un homme qui s'est levé contre cette hérésie, c'est Grégoire à la Masse, qui avait témoin dans mont Athos et qui est devenu archevêque de Thessalonique. Et il s'est levé avec force. Et il a dit, c'est une hérésie, ce n'est pas la foi orthodoxe. Et il a écrit son grand livre sur les triades, qui est un livre très difficile, dont j'ai lu une partie extrêmement complexe. Et cette controverse a enflammé le monde chrétien au XIVe siècle. Il y a eu trois conciles à Constantinople, mais dont deux plus importants que les autres, en 1347 et 1351, surtout grâce d'ailleurs à l'empereur Francis Cantacuzène, qui a soutenu par la Masse. Et ces conciles ont proclamé solennellement le don de la lumière incréée, des énergies divines incréées. Pourvu qu'il parle. Et en 1368, le patriarche Philothée de Constantinople a fait canoniser Grégoire à la Masse, mais la fête le 14 novembre, c'est le jour de son dies natalis, c'est sa mort. Et le patriarche Philothée a établi la commémoration de la doctrine de Palamas, le deuxième dimanche de carême, en référence au premier dimanche où on avait solennellement proclamé les sept conciles œcuméniques et rattaché et proclamé le rétablissement du culte des icônes. Il a fait cela comme une sorte de prolongement et complément du triomphe de l'orthodoxie. On pourrait dire que c'est le deuxième dimanche du triomphe de l'orthodoxie. Voilà un peu pour l'histoire. Mais il faut souligner que c'est un aspect essentiel des dogmes orthodoxes. Absolument capital. C'est aussi capital que l'épiclèse dans la liturgie, qui d'ailleurs est liée. Pour les orthodoxes, depuis 2000 ans, le but de la vie chrétienne, c'est la déification. C'est la transfiguration de l'homme et du cosmos. C'est l'union à Dieu, la théosis. C'est le but unique de la vie humaine. Ce n'est pas l'organisation du monde. C'est pas de faire du bien. C'est d'être déifié. L'homme est déifié lorsqu'il est rempli des énergies divines incréées de Dieu. Coréable. Vous avez entendu hier, pour ceux qui étaient là, la très belle lecture de l'Exode. Moïse monte au sommet du Sinaï, et là, il rencontre Dieu et il parle avec Dieu. Et quand il redescend, l'Écriture nous dit, la peau de son visage rayonnait de lumière. Il était transfiguré. Ah. Il était entré dans une relation intime avec Dieu. La peau de son visage était transfiguré. Il était transfiguré. Il devait se cacher en mettant un voile parce que c'était trop fort pour les autres. 3000 ans après Moïse, Saint-Séraphin de Sarov, au XVIIIe siècle, Il a montré à Motovilov le but de la vie. Motovilov a dit, c'est quoi le but de la vie? C'est l'acquisition du Saint-Esprit. Mais il dit, mais ça veut dire quoi ce truc-là? Et ça, c'est Raphaël lui dit, regarde-moi. Et il était transfiguré. Et il lui a dit, tu ne peux me voir ainsi que parce que toi aussi tu es dans cette lumière. Il faisait référence au psaume du roi David. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. On ne peut voir la lumière divine que si on y est déjà. Cela signifie que les yeux de l'homme peuvent voir la lumière incréée de Dieu. Si ce n'était pas possible, la vie ne servirait à rien. Si l'homme ne pouvait pas entrer dans une communion réelle avec Dieu, si on ne pouvait pas l'édifier, la vie ne servirait à rien et l'existence serait inutile. La créature n'aurait pas d'avenir, pas de destin. Il faudrait être désespéré pour l'éternité. C'est parce qu'on peut édifier que la vie vaut la peine d'être vécue. Si ce n'était pas ici, il y aurait un abîme infranchissable entre le Créateur et la créature. Et Palamas a opéré cette distinction très importante entre l'essence divine, qui est tout à fait inconnaissable, qui est liée au caractère incréé de Dieu, et les énergies divines, qui sont comme une espèce d'eau qui déborde du vase, qui est inconnaissable et qui se répand. Les énergies divines dans lesquelles le Seigneur Dieu crée et se communique, se donne. C'est ça les énergies divines créées, c'est la grâce. Les énergies divines ne sont pas une partie de Dieu, c'est tout Dieu. Dieu est entièrement présent dans ces énergies. On pourrait presque dire que c'est une modalité de l'être divin. Jean Meyendorff fait une belle expression, parce que c'est lui qui a bien commenté par la base. Il dit que c'est un acte libre et gratuit de Dieu qui se donne. C'est beau. Les énergies divines proviennent du Père, sont manifestées par le Fils et nous sont données par le Saint-Esprit. C'est tout Dieu, mais c'est différent de son essence. Parce qu'il est incréé, et que nous n'avons pas accès à ce qui est incréé. Voilà ce que c'est que les énergies divines incréées. Pour les orthodoxes, c'est une question de vie ou de mort. C'est essentiel. Et le paralytique. Mais le paralytique, il n'a rien à voir avec le carême, vous allez voir comme il est important. Comme il est important par rapport au carême, à Pâques, à toute la vie chrétienne. Bon, ça vaut la peine de le dire quand même. Le Christ, il vient de rentrer probablement de Gadara, où il a délivré les deux possédés. Puis il traverse le lac de Tibériade, il rentre dans sa ville, Capharnaüm. Et la maison, c'est la maison où il vit avec ses disciples. C'est un homme extraordinairement célèbre. C'est le plus célèbre de toute la Palestine, le Rabbi Yeshua. Alors les foules viennent, de bouche à oreille, il n'y a pas de radio, pas de télévision, il n'y a pas Internet, pas de nouvelles. Et tout le monde se dit des choses. Ça circule l'information. Et donc tout le monde vient à la maison parce que le rabbi est rentré. Parce qu'il dit des choses tellement incroyables, cet homme-là. Et il fait des choses incroyables. Il fout la cour. Ce qui irrite beaucoup le clergé officiel. Les gens disent bien, les grands spirituels, les pharisiens. Ça les irrite énormément. Ils sont très jaloux. Et puis, la foule est telle qu'on ne peut pas entrer dans la maison. Et on va lui amener un homme paralytique. Ça, c'est une très, très forte image du péché de l'homme. Vous avez deux fortes images du péché de l'homme. Il y a la lèpre et la paralysie. Parce que paralysé, vous avez perdu l'autonomie, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus créer. Vous n'êtes plus l'image de Dieu. Et les gens qui portent le grabat, ils voient qu'ils n'arriveront pas à passer. La foule est trop grande. Ils sont très astucieux. Ils ne peuvent pas, mais ils réfléchissent. Ils sont comme ça dans l'évangile. Je ne peux pas passer par un chemin, mais je peux passer par un autre. Et les maisons juives de l'époque, les maisons pauvres, c'est un cube. Il y a des solives, des poutres, puis des grosses tuiles d'argile cuite. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a un escalier extérieur. C'est les maisons pauvres. Dans les maisons riches, on met la chambre haute. Là, on va faire la salle. C'est une maison pauvre. Ils se disent, astuce, tac, ils montent au petit escalier, ce qui n'est pas facile. Un grabat, puis ils vont sur le toit, ils retirent les tuiles, puis tchic, ils le descendent avec des cordes. Le Seigneur est épaté. Ah, il dit, ça c'est fantastique. Il dit, quelle foi! Quelle foi! Il va faire quelque chose d'incroyable. Il dit une phrase choc. Très souvent, le Christ agit ainsi. Vous avez vu que ce n'est pas du tout un homme qui s'installe. Il veut nous emmener très loin. Il veut nous emmener jusqu'au trône du Père. Et donc, il faut absolument progresser. Donc, on ne s'installe jamais. C'est toujours nouveau. Et il dit une phrase choc, incroyable. Parce que tout le monde s'attend à ce qu'il dise, je te guéris. Parce qu'ils sont venus pour ça. Et il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Première fois dans l'histoire humaine, depuis la chute de l'homme, qu'on entend cette phrase. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quelle audace! Parce que les gens peuvent ricaner, peuvent dire, oh oui, bon, c'est une parole tout ça. Mais c'est ce qu'ils font les scribes et les pharisiens qui sont autour. Ils pensent en leur cœur, ils n'osent pas lui dire. Ils disent, ils blasphèment. Dieu seul peut pardonner. Là, ils ont raison. Dieu seul peut pardonner. Mais ils disent, ils blasphèment, cet homme-là. C'est un charlatan. J'ai vu que le Christ, il a lu dans les cœurs. Il a dit, pourquoi ces mauvaises pensées dans vos cœurs? Et qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou les trois marges? Ça peut nous paraître bizarre, mais c'est vrai, ça ne se voit pas que les péchés soient pardonnés. Mais lève-toi et marche, ça se voit. C'est une preuve. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Vous avez vu, il a dit le Fils de l'homme, il n'a pas dit le Fils de Dieu. Je t'ordonne, lève-toi et marche. Et il donne la preuve qu'il est le Messie. Mais ne changeons pas leur pensée. Il donne la preuve qu'il est le Messie. Et ce qu'il y a de très intéressant pour nous, c'est qu'il a lié le pardon à la foi. Voyant leur foi, il dit, tes péchés te sont remis. Ça, c'est très important pour nous. Si on n'a pas foi en Christ, il n'y a pas de pardon. Si on ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu, si on ne croit pas qu'il peut me remettre mes péchés, il n'y a rien. Il n'existe rien. Voyant leur foi, il va pardonner. Et vous avez vu qu'il pardonne gratuitement. Il ne met pas de clause. Il ne dit pas, je te pardonne si tu fais ci, tout ça. C'est un pardon gratuit qui est offert, mais qui impose à l'homme de changer de vie. Mais il ne met pas de préalable, pas d'a priori. Et après, nous devons changer, bien sûr. Et les juifs, les scribes et les pharisiens, qui sont des gens tout à fait savants, qui sont des grands théologiens, qui sont des grands ascètes, ils ne recevront pas cette parole. Ils ne se convertiront pas. Ils rejetteront Jésus jusqu'au bout. Ils le condamneront et le feront tuer par les Romains. Ça, c'est voilà, l'aspect tout à fait tragique de cette chose-là qui va nous emmener à la Semaine Sainte et à Pâques. Les hommes aiment bien être dans leur petit confort intérieur, dans leurs pantoufles. Et parmi les hommes, plus encore le clergé et les gens de pouvoir. Tout ce qui change les inquiète toujours, ça leur fait toujours peur. Vous avez vu, le haut clergé a toujours la trouille de tout. On n'ose rien changer, on n'ose pas changer une virgule, même quand il y a des erreurs dans les livres. Il ne faut rien changer. Mais le Christ n'est pas du tout comme ça. Il dit changer, bouger. On est venu pour gagner, on est venu pour atteindre le royaume de Dieu. Changer. Et c'est le message qu'il nous donne. Soyez capables de changement. Transformez-vous. Ils veulent bien recevoir le Christ tant que ça correspond à leurs pensées, à leurs habitudes, à leur culture. La culture religieuse est un drame. Laissons la culture de côté, mais soyons capables de changer nos pensées. C'est quoi changer les pensées? C'est être capable de faire le silence intérieur. Je reviens à la 16 du carême. Être capable d'arrêter mes propres pensées. C'est ça le jeûne le plus important. Être capable de se taire intérieurement. De rejeter ses propres pensées pour recevoir celles de Dieu. Ça, c'est le plus grand des jeûnes. C'est le plus grand des ascèses. C'est ce qui nous est le plus difficile. Parce que ça entraîne une véritable mort à nous. Mais être un vrai spirituel, être un vrai ascète, c'est cela. Que je meure à mes propres pensées, mes propres conceptions, et que je me taise pour pouvoir écouter celle de Dieu. Et lui soit la gloire pour les siècles des siècles.